carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Carrefour des Arts vous emmène aujourd'hui au petit Versailles Lorrain, le château de Lunéville. Nous allons pouvoir parler de son histoire, mais également de l'incendie qui s'est déclaré en 2003. Et puis nous évoquerons les balades qui peuvent être faites autour de Lunéville. Tout cela en compagnie d'Anne Muratori-Philippe. Anne Muratori-Philippe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous intervenez souvent sur Canal Académie. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes correspondant de l'Institut, que vous êtes biographe de Stanislas Leszczynski et nous serons amenés à en reparler au cours de cette émission, historienne bien sûr et journaliste. Avec vous donc, comme je le disais à l'instant, nous allons pouvoir reparler de ce petit Versailles Lorrain ou Château des Lumières, suivant quel regard nous portons. Nous allons discuter également de ce fameux incendie qui a pratiquement tout ravagé, de la mobilisation de la population suite à cet événement et également nous parlerons de l'église Saint-Jacques qui se trouve à proximité du château de Lunéville. Et puis nous terminerons enfin par l'exposition qui se déroule, précisons-le, jusqu'au 30 septembre 2007, mais qui sera l'occasion de discuter de la duchesse et de ses peintures. Vous nous donnerez tous ces détails. Alors peut-être pourrions-nous débuter par le contexte historique, Anne Muratori-Philippe, au moment de la construction du château.
Alors déjà, le château de Lunéville se trouve à une trentaine de kilomètres de Nancy. Il y a toujours eu un château à Lunéville. Au Moyen-Âge, c'était une forteresse. Et puis petit à petit, au XIIIe siècle, le château est devenu une résidence ducale, mais c'était là aussi un modeste château. Et il faut arriver au XVIIe siècle avec le duc de Lorraine, Léopold Ier, pour que le château devienne palais. Enfin, un petit palais, bien sûr, mais pour les Lorrains, c'était devenu une grande résidence ducale, car Léopold Ier en avait assez de voir les troupes de Louis XIV traverser Nancy, et passé devant son palais ducal, il a préféré se retirer sur ses terres estivales, si je puis dire, et il a demandé au grand architecte français Germain Beaufranc de venir lui construire un petit palais qui est quand même l'allure et la beauté de Versailles. Voilà pourquoi on l'appelle le Versailles Lorrain.
Et c'est suivant peut-être les conseils de son épouse qui avait des liens avec la famille royale.
Alors en effet, Élisabeth Charlotte s'appelle Élisabeth Charlotte d'Orléans avant d'épouser Léopold. Elle est une Bourbon, alors que Léopold, lui, est un Habsbourg. Et elle est la fille de la princesse Palatine et de monsieur, frère du roi, donc frère de Louis XIV. Elle a vécu à la cour, elle a raconté Versailles à son époux, et tous deux, bien sûr, rêvent de Versailles. Léopold aimerait bien reconstituer à Lunéville une cour qui est la renommée de Versailles et un château qui attire les musiciens, les artistes, comme Louis XIV l'a fait à Versailles.
Et finalement, on se retrouve alors pas sur le territoire français, hein, puisqu'on l'aura bien compris, les ducs de Lorraine sont indépendants, mais en tous les cas, on se retrouve avec deux Versailles, entre guillemets, qui s'observent l'un l'autre, avec peut-être des frictions ou pas.
Alors, non, c'est assez rigolo, parce que du temps du duc Léopold, les deux duchés de Lorraine sont indépendants, le duché, on appelle le duché de Lorraine et le duché de Bar, ils sont sous la houlette du duc Léopold, et ce duc, bien que Habsbourg, est très malin et sait concilier les dangers et sait prévenir les dangers, et il a une politique de diplomate, aussi bien à l'égard de la France, et à l'égard des Habsbourg, c'est même pas la peine, puisqu'il a été élevé à Vienne, ce duc Léopold. Donc il est beaucoup plus attiré par Vienne et par l'Autriche. Simplement, il envie Louis XIV, et il est quand même le vassal de Louis XIV. Donc il est obligé de concilier avec la politique du roi Soleil, même si elle lui déplaît.
Et ce fameux duc Léopold, était-il aimé ou au contraire, était-il vu comme un étranger?
Ah, pas du tout. Le duc Léopold est le fils de toute une lignée donc de ducs de Lorraine. Les Lorrains l'adorent, il est très aimé. Son épouse, bien que Bourbon, est arrivée à se faire accepter sans problème. Elle a même épousé la cause de son mari. Et ce couple ducal mène une vie très heureuse dans ses terres. Léopold fait venir des artistes, débauche des artistes aussi bien du côté de l'Autriche ou de l'Allemagne que du côté de la France, et il est en train de transformer le château et d'en faire une belle résidence au décor rococo, puisque tout doucement nous nous acheminons vers l'architecture rococo, même si à l'extérieur, ce palais donne l'impression d'être sévère, mais c'est la pierre un petit peu foncée qui donne cette impression. Et puis les grandes toitures à la mansarde, mais simplement ce palais est un lieu enchanteur car le duc Léopold est un passionné de musique et fait venir un orchestre qui était à sa disposition.
Ça, c'est pour le duc Léopold, mais son successeur, c'est le fameux Stanislas Leszczynski, dont vous êtes la biographe, Admiratori Philippe, et donc vous connaissez parfaitement sa vie. Alors justement, comment se passe la succession? Comment arrive Stanislas Leszczynski au château de Lunéville?
Alors c'est tout simple, en 1729, Léopold Ier meurt, et son héritier s'appelle François de Lorraine, et il peut monter sur le trône de Lorraine, enfin sur le duché de Lorraine, en tant que François III de Lorraine. Ce petit prince a été élevé à Vienne lui aussi. Il parle beaucoup plus facilement l'allemand que le français, et il connaît très mal la Lorraine. Bon, il vient prendre possession des duchés, mais c'est au moment où nous sommes en France, en pleine guerre de succession de Pologne. Le roi Stanislas, qui était roi de Pologne, a été contraint de fuir sous la poussée des Russes et de l'électeur de Saxe, qui se fait élire, parce qu'en Pologne, la monarchie est élective. Donc le malheureux Stanislas, qui est le beau-père du roi de France Louis XV à l'époque, se retrouve sans royaume. Ça fait très mauvais effet qu'un roi de France ait pour beau-père un roi déchu, un roi un peu clochard, parce qu'il a plus de fortune, il a tout perdu, les Russes ont brûlé ses palais, ont déporté ses paysans, donc il n'a plus rien.
Il est vraiment en exil.
Il est vraiment en exil et il ne sait que devenir. Il a réussi à s'échapper de Dantzig assiégé par les Russes et il est pour l'instant sous la protection du père de Frédéric II. Du roi de Prusse. Donc, pendant que le traité de Vienne apportant la paix à cette guerre de succession de Pologne s'organise et se discute aussi bien à Vienne qu'à Paris, François III va prendre possession de la Lorraine. Mais pour Louis XV et pour le cardinal de Fleury, qui est à la tête de l'État, on voit arriver d'un très mauvais œil ce petit prince ayant vécu à Vienne et vraiment regardant que vers Vienne, on voit très mal un Habsbourg aux frontières de la France. Donc il y a un jeu diplomatique de discussion qui font que on propose à l'empereur de l'Empire romain germanique qui est le père de Marie-Thérèse Charles VI, on lui propose de donner le duché de Toscane à François III de Lorraine, car le duc de Médicis, qui est à la tête de la Toscane, est en train de mourir. Je crois que c'est Gaston III. Et donc, du coup, on va donner la Toscane à François.
François III.
Et la Lorraine sera un duché qu'on va céder à titre viager au roi Stanislas. Et à sa mort, la Lorraine entrera à ce moment-là dans le giron de la France. Et effectivement, en 1736, à la signature du traité de Vienne, voilà ce qui est décidé. Donc, François III de Lorraine est assez mécontent, mais comme il épouse Marie-Thérèse d'Autriche et que, bon, le jeune couple part habiter la Toscane, la Lorraine, elle, est sous la régence de Élisabeth Charlotte, la mère de François, jusqu'à l'arrivée de Stanislas, qui arrive en 1737. Mais Stanislas a fait une promesse à son gendre, c'est qu'il ne se mêlera pas de politique. Il abandonne ses droits de gouvernement sur la Lorraine. En revanche, on lui donne une compensation, c'est-à-dire qu'il va recevoir 2 millions de livres annuels pour ses frais, c'est-à-dire pour vivre à Lunéville, organiser des fêtes, créer tout un tas de choses. C'est pas énorme, parce qu'il doit entretenir une cour quand même de 400 personnes, mais il est dégagé des problèmes politiques.
On le paye pour se taire.
On le paye pour se taire, c'est tout simplement ça. Mais il faut dire qu'à cette époque, Stanislas a 60 ans, il a bourlingué, il a pas très bonne santé, et qu'il se dit, après tout, c'est une solution de tranquillité et il accepte. Donc il arrive en Lorraine en 1737 et il est très mal accueilli parce que c'est le suppôt du roi de France et les Lorrains se rendent bien compte que il vient pour préparer l'annexion de la Lorraine à la France.
Comme vous le disiez, il est en exil, il a très peu d'argent, donc ce château, il va l'aménager un peu, mais pas tant que ça finalement.
Il entre dans ce château, il trouve le décor à son goût, et il a même la délicatesse de ne pas arracher le chiffre de Léopold, que l'on voit d'ailleurs toujours sur les murs du château. Il l'a gardé, sauf sur une pièce qui était un peu sa bibliothèque, où il a mis son propre chiffre. Donc il n'y touche pas, il se contente de l'aménager par des tentures, un peu baroque, puisque Stanislas arrive avec le goût du baroque et le goût aussi d'un art oriental, puisqu'il a été prisonnier en Turquie. Donc il a une passion pour toutes ces choses un peu orientales. Donc il le meuble de cette manière, mais il ne touche pas au château.
En revanche, il va créer des fabriques.
Voilà, alors en revanche, il va s'occuper des bosquets. Les bosquets, c'est 19 hectares de parc qu'il y a autour du château. Et Léopold avait créé, comme à Versailles, un grand tapis vert, c'est-à-dire cette grande allée qui va vers l'horizon, qui se perd dans l'horizon. Stanislas, lui, réutilise cette grande allée, mais au bout de cette grande allée, donc à 3-4 kilomètres, il le fait construire un petit château délicieux qu'on appelle Chanteux. Et c'est un château d'été où il y a des jeux d'eau, de lumière, parce que c'était le grand plaisir de Stanislas, c'était de créer une architecture festive où l'eau et le feu pouvaient composer des spectacles. Il était féru de feux d'artifice, féru de mécanismes les plus complexes. Et notamment, il y a une petite fabrique dans les bosquets qui s'appelle la Cascade, où le mur, en fait, c'est un mur d'eau. Et ce mur d'eau devient cristal lorsque le soleil se reflète dans ces petits jets d'eau qui descendent et qui constituent cette cloison.
Stanislas a 60 ans, mais il garde une âme d'enfant, en quelque sorte.
Tout à fait, puisqu'il s'est amusé à créer ce qu'on appelle le rocher. C'est un endroit où vous avez un petit royaume, grandeur nature, et dedans il y a 80 automates. Et ces automates racontent la vie rêvée d'un petit royaume idyllique. En fait, c'est le royaume que Stanislas n'a jamais pu être le maître de ce royaume, puisque les Polonais l'ont toujours rejeté.
Il se recrée son univers.
Et son goût du bonheur, il le crée dans ses parcs et dans ses fabriques.
Et alors, parmi toutes ces fabriques, vous me l'expliquiez en préparant cette émission, il y a une pagode.
Oui, il y a une pagode, ce qu'on appelle le trèfle. C'était un petit peu le salon de thé de Stanislas. Et c'est en fait la première pagode qui ait été construite en France. Enfin, en France, oui, enfin, nous sommes en Lorraine. Mais bon, c'est la première pagode dont on entend parler à Paris et à Versailles, parce qu'il n'y en avait qu'une à ce moment-là, c'était celle de Frédéric II à Potsdam.
Admiratori Philippe, je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour poursuivre notre avancée dans le temps, en savoir plus sur Stanislas Leszczynski, et puis nous reviendrons à cet incendie et à la mobilisation qu'il a suscité. À tout de suite.
Thank you.
suite de notre émission Carrefour des Arts, toujours en compagnie d'Anne Muratori-Philippe, avec qui nous découvrons ou redécouvrons le château de Lunéville. Alors nous sommes toujours en compagnie de Stanislas Leschinski. Donc en quittant cette première partie d'émission, nous étions dans la pagode, hein, une des fabriques au cœur de ces bosquets de 19 hectares. Stanislas Leschinski règne, entre guillemets, pendant combien de temps au château de Lunéville ?
Pendant 29 ans exactement. Et il y règne d'une façon remarquable, puisqu'il a eu le temps quand même de faire de son château une étape privilégiée sur la route de Versailles à Berlin. Et tous les grands écrivains et les hommes des Lumières de cette époque passent à la cour de Stanislas, y séjournent. Et même Voltaire et son égérie, Madame du Châtelet, vont y séjourner deux fois un an à peu près. Et même Madame du Châtelet va y mourir, puisqu'elle est enterrée
à
l'église Saint-Jacques à Lunéville.
Donc c'est un attrait pour les sciences, c'est arrivé comme ça des Lumières.
Alors Stanislas est curieux de tout, il s'occupe de tout. Il a un microscope que Louis XV lui a offert, il adore les sciences, l'astronomie, la géographie, mais il se penche aussi sur la religion, les problèmes de religion, et il a des idées de réforme. Par exemple, il trouve qu'on a tort de faire élire le pape par un conclave de cardinaux, et il estime que ce serait bien mieux que ce soit les évêques qui sont auprès des pécheurs, qui eux-mêmes désignent leur pape. Ce serait... on aurait peut-être un pape plus proche de la population.
Oui, il avait des idées bien modernes.
Et alors, il a aussi sa grande idée, c'est que il crée des fondations. Et il crée plus d'une cinquantaine de fondations, grâce toujours à ses émoluments annuels qu'il reçoit de 2 millions de livres par an. Et il crée par exemple les avocats gratuits pour les pauvres. Il crée des collèges pour les enfants de l'aristocratie lorraine qui ont perdu leurs parents, les orphelins. Il crée des greniers à blé pour en temps de disette.
C'est un humaniste.
Tout à fait. Et on l'appelle d'ailleurs le philosophe bienfaisant. Et il crée aussi, bien sûr, une académie qui existe encore aujourd'hui sous le nom d'Académie de Stanislas. Et cette académie, il a eu beaucoup de mal à la créer parce que c'était un petit peu un geste vu par Louis XV et ses sbires, si je puis dire. C'était considéré comme un acte politique. Et on craignait que cette académie donne des velléités d'indépendance aux Lorrains. Et puis finalement, par des astuces de Stanislas et de ses amis, ils ont créé cette académie à laquelle a appartenu Montesquieu, Rousseau. Voltaire n'en a pas fait partie parce qu'entre-temps, il s'est un petit peu fâché avec Stanislas. Il se fâchait partout où il passait, Voltaire.
Alors, Stanislas Leschinski décède. Comment se passe sa succession ?
Alors, il décède en 1766.
Il vit très vieux.
Il vit, oui, très vieux. Et il est à moitié aveugle, il est perclus de rhumatisme, il est gros, énorme. Et il vient d'apprendre la mort de son petit-fils, le dauphin. Ça l'affecte beaucoup. Et au petit matin, parce qu'il se levait très tôt, en hiver à 6 heures, en été à 5 heures du matin. Et à 6 heures, il veut prendre sa pipe qui est posée sur le rebord de la cheminée. Il trébuche et il tombe le long de l'âtre. Le feu fonctionne, le valet l'a allumé le matin. Et Stanislas est brûlé aux trois quarts. Finalement, il va survivre à ses blessures, à ses brûlures, pendant 3 semaines. Ça a dû être quelque chose d'épouvantable quand on pense... qu'il a des brûlures, enfin, d'après les textes que j'ai trouvés, les comptes rendus des médecins, il a été brûlé au troisième degré à certains endroits, à peu près.
Donc ça
il décède.
Il décède. Et c'est Louis XV qui reprend la succession?
Effectivement, Louis XV prend possession de la Lorraine, enfin, il envoie ses hommes prendre possession de la Lorraine.
C'est ce qui avait été décidé?
C'est ce qui a été décidé. De toute façon, l'administration qui était en place, puisqu'on l'avait retiré, le pouvoir politique, c'était une administration de Louis XV, donc elle était déjà là. Elle a pris possession de tout, et elle a pris possession du château de Lunéville, faisant partir la cour. Tous les aristocrates qui étaient là, tous les gens qui étaient autour de Stanislas ont dû quitter le palais assez vite. Même la maîtresse de Stanislas, qui a été priée de rentrer dans son château voisin. Et puis Louis XV a décidé qu'on allait mettre en vente la plupart des fabriques de son beau-père, car il estimait ne pas pouvoir les entretenir. Trouvait que c'était un petit peu dispendieux toutes ces féeries. Un peu trop d'originalité, car Louis XV n'appréciait pas le caractère joyeux de Stanislas, il était plutôt renfermé. Et donc on va faire plusieurs ventes aux enchères, et beaucoup d'objets, beaucoup de statues vont se retrouver, et aujourd'hui encore, dans des propriétés et des palais allemands, rhénans notamment, ou du pays de Bade. Le château de Lunéville, lui, devient une caserne où on y reçoit les gendarmes rouges. Et ça restera caserne pratiquement jusqu'au XXe siècle.
Alors là, pour le coup, vous avez avancé comme j'allais vous le demander. En fait, effectivement, nous allons faire un grand bond en avant. Un grand bond parce que nous arrivons en 2003.
Oui.
Malheureusement, nous sommes obligés d'avancer un peu plus rapidement. En 2003, donc, il y a un incendie. Hein, le château est devenu musée. Il se visite.
Alors le château reste, le château est toujours plus ou moins, ce n'est plus une caserne, mais le ministère de la Défense en détient une partie dans laquelle il y a les appartements du gouverneur militaire, plus un mess des officiers avec une très belle bibliothèque de plus de 3000 documents, dont des lettres de Napoléon. Et puis, il y a la partie municipale qui est ensuite après récupérée par l'État, qui est le musée de Lunéville, qui était un musée de la faïencerie, où il y avait une apothicairie de plus de 200 pots magnifiques et une très très belle collection de faïences, de tableaux, et notamment tous les petits tableaux qui évoquaient la vie à Lunéville et les compositions architecturales des précédent duc, aussi bien de Léopold que de Stanislas.
Alors, lors de l'incendie en 2003, ce sont tous ces objets qui disparaissent.
Alors voilà, dans la nuit du 2 au 3 janvier 2003, un incendie se déclare dans le comble de la chapelle. Il y a une tempête épouvantable, le vent souffle à plus de 100 km/h et cette toiture s'embrase et s'effondre. Et tout s'effondre comme un château de cartes. L'eau des lances à incendie fait le reste et quelques jours après, c'est le gel qui prend le relais. Donc vous imaginez que le pauvre château de Lunéville a été complètement sinistré. On pensait même ne plus rien trouver. Bon, déjà pendant l'incendie, il y avait eu des gestes de solidarité puisque la population était accourue et avait participé à un sauvetage, c'est-à-dire que tout ce qui pouvait être retiré de la proie des flammes, on le faisait.
Et il y avait une chaîne humaine. Encore touchée, ouais.
Il y avait une chaîne humaine qui se passait les objets. Et c'est comme ça qu'on a pu sauver une petite statuette de Louis XV, une statuette de Marie Leczinska, quelques petits objets. On a sauvé tout ce qu'on a pu. Et puis ensuite, le château s'est endormi. On lui a mis un immense parapluie au-dessus de lui pour le protéger des intempéries. Et c'est là qu'un travail d'archéologue pratiquement a commencé, car tous les conservateurs s'y sont mis, aidés par des spécialistes. Et dans cet amas de cendres à moitié gelées, on a essayé de retrouver des choses, des objets. Et tous les moindres petits tessons étaient ramassés. Et parfois, on arrivait même à reconstituer une assiette. Et on a pratiquement reconstitué le héros de la cour de Stanislas, qui était le nain bébé, qui faisait la joie de Stanislas et le malheur de toute la cour parce qu'il était assez odieux. Et ce bébé avait été immortalisé en faïence de Lunéville. Et c'était une petite statuette que l'on venait de voir de très loin. Tous les Lorrains venaient à Lunéville admirer cette statuette.
Le bébé avait beaucoup de succès.
Voilà, le bébé avait un succès fou, d'autant plus qu'elle était, paraît-il, grandeur nature. Donc elle faisait dans les 70 cm de haut. On a en principe retrouvé pratiquement tous les morceaux et elle va pouvoir être reconstituée.
Alors il y a aussi une mobilisation européenne, des crédits européens, pour que ce château puisse petit à petit retrouver de son panache.
Oui, alors en effet, c'est un petit peu grâce à la présence de Otto de Habsbourg, qui, faut bien le dire, descend des Habsbourg-Lorraine. Et lorsqu'il était en exil, s'est marié à Nancy en 1952. Donc, il garde des liens très étroits avec la Lorraine. Et Otto de Habsbourg est venu visiter le château incendié dès le lendemain, le 4 janvier. Et il a essayé de créer un mouvement, effectivement, un mouvement européen autour du château.
Et alors, ce que vous expliquez en préparant cette émission, donc qui n'était pas enregistrée, c'est que les Lorrains même, qui ont pour habitude d'être un peu secrets, sont venus avec des objets eux-mêmes pour pouvoir redonner aussi encore un peu de couleur à ce château, des soupières ou autres, aux armes de Stanislas ou de Léopold.
En effet, après l'incendie, on a créé une association qui s'appelle Lunéville Château des Lumières. Et cette association essayait de retisser la trame historique du château et de retrouver des liens un peu partout. Et il y a eu suffi qu'il y ait quelques campagnes de presse par-ci par-là pour qu'effectivement les Lorrains se mobilisent. Et beaucoup sont venus, beaucoup ont offert les uns la grosse soupière aux armes de Stanislas, les autres un écritoire de Chaumont de la Galésière, l'intendant de Stanislas. D'autres ont retrouvé des tableaux de l'époque de Léopold. Et il y a eu énormément de dons qui ont été faits, et notamment des dons de tableaux de très grande valeur, ou même de mobilier, de consoles ou de lambris. Lunéville va recevoir les lambris d'un château voisin que la famille ne peut plus garder. C'est une vieille dame très âgée qui est toute seule sans héritier. Et c'est un décor à la chinoise du 18e qui correspond parfaitement au décor qu'avait commandé Stanislas.
Alors c'est vrai que lorsqu'on regarde le site internet du château de Lunéville, on voit toute la partie mobilisation, l'association en question dont vous nous parlez, avec effectivement un petit compteur qui indique plus d'1 million d'euros de dons. Mais ce sont des travaux qui s'inscrivent dans la durée jusqu'à 2016.
Enfin, l'essentiel des travaux va durer, enfin le gros, la chapelle, le corps central, les salons, ça va durer jusqu'en 2013. Et pour un total de travaux de 36 millions d'euros. Ensuite, entre 2014 et 2016, il y aura encore 14 millions d'euros de travaux supplémentaires. Et en gros, en 2016, lorsque le château sera achevé, on pense qu'il aura coûté dans les 50 millions d'euros.
Alors, pour terminer cette émission, deux points quand même. L'église Saint-Jacques, qui se trouve à côté du château de Lunéville, où est enterrée Madame du Châtelet, dont vous nous parliez. Également, on retrouve les entrailles de Stanislas.
En effet, oui. Alors, c'est une très jolie église baroque, parce que c'est Stanislas qui l'a fait construire par Emmanuel Herré, son architecte, l'architecte de ses fabriques, l'architecte de la place Stanislas. C'est une très belle église qui a été construite en grès rose des Vosges, donc elle a une couleur merveilleuse, dorée rose. Mais elle a une particularité, outre les entrailles de Stanislas, qui sont dans un cénotaphe à l'entrée, et la pierre tombale noire de Madame du Châtelet, qui vient de recevoir une plaque. Personne ne savait qu'elle était enterrée là. Et c'est sa biographe Elisabeth Badinter qui est venue déposer une petite plaque. Maintenant, on sait que Madame du Châtelet est là. Et elle a des orgues que Stanislas avait commandés, qui ont été dessinés par Herré. Et ces orgues baroques ont une particularité, c'est que les tuyaux d'orgue sont totalement invisibles, ils sont cachés par les colonnes du grand rétable de l'orgue, du grand buffet d'orgue. Et en plus, ça ne modifie en rien la sonorité. Et c'est devenu, l'orgue de Saint-Jacques est en train de devenir maintenant un haut lieu de concerts et de musique. Et à sa manière, il participe à la reconstruction du château de Lunéville, puisqu'il va y avoir des concerts pour la reconstruction du château.
Donc c'est bien en fait, l'église de Stanislas sert à la reconstruction de son propre château. Pour terminer cette émission, un mot quand même sur l'exposition, les tableaux de la duchesse.
Alors effectivement, le château n'a plus rien malheureusement à montrer, mais dans la partie qui n'a pas été brûlée, on a organisé une salle d'exposition où l'on a montré différents tableaux de Élisabeth Charlotte, donc la femme de Léopold Ier et la mère de François. Élisabeth Charlotte est représentée soit par des peintres lorrains, soit par Alexis Simon Bell. On la voit au moment de son mariage, Elle ressemble pas encore à Madame Palatine, sa mère, mais plus tard, il y a un tableau encore d'Alexis Simon Bell où on la voit, on a l'impression que c'est la princesse Palatine qui est dans votre salon, pas du tout, non, c'est Elisabeth Charlotte. Et il y a aussi un tableau où elle est avec un de ses fils, on imagine que c'est François, et ce tableau est splendide, il est très grand, et c'est une donation qui va être faite au château de Lunéville, et c'est un petit peu la raison de cette exposition, c'est de montrer aux Lorrains des tableaux qui vont venir au musée, soit par des dépôts d'autres musées, soit par des dons de familles lorraines.
Donc c'est une exposition qui dure jusqu'au 30 septembre, mais en fait qui s'inscrit dans la durée, puisque c'est amené à se retrouver dans les salles,
dans les collections du château.
Dans les collections du château. Anne Muratori Philippe, à côté de vous, vous avez des catalogues, des magazines, je ne sais pas quel est le terme à employer, mais en tout cas, issus de la fondation, de l'association qui milite pour la reconstruction du château. Ce sont des cahiers.
Alors, l'association a décidé de publier une fois par an ce qu'ils appellent les cahiers du château, qui sont constitués d'un certain nombre de textes de spécialistes, d'historiens, de conservateurs, et qui racontent des différentes étapes de la vie du château de Lunéville. Ces cahiers sont en vente, et le produit de la vente de ces cahiers va aussi à la reconstruction du château de Lunéville. Donc, on peut les consulter sur Internet. Il suffit de faire fondation-patrimoine.com et puis on peut se renseigner à la Fondation du patrimoine, délégation régionale, au 03 83 46 86 35.
Eh bien voilà, c'est dit. Merci Anne Muratori Philippe de nous avoir fait ce petit tour très rapide et dans le temps et aussi géographique. Hein. Un petit tour donc de ce château de Lunéville, petit Versailles lorrain. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes toujours correspondant de l'Institut, historienne, biographe de Stanislas Leschinski et journaliste. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Je leur indique également qu'une émission a été enregistrée sur Madame du Châtelet, puisque nous en avons parlé. C'est l'occasion peut-être d'aller creuser ce personnage, d'aller creuser pour en savoir plus sur la vie de ce personnage. Et puis, Anne Muratori Philippe, bien sûr, vous êtes sur Canal Académie, notamment pour l'histoire de l'Arc de Triomphe, qui est aussi une histoire assez drôle. Et puis, sur quelles émissions on peut vous retrouver ?
Sur les livres, notamment des livres d'histoire, et puis aussi sur tout ce qui touche à mes autres personnages, comme Parmentier.
Et de l'Académie des sciences.
Voilà, et l'Hôtel des Invalides.
Eh bien, merci Anne Muratori Philippe, et puis à très vite pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.